Depuis la fin des années 80, la notion complexe d'engagement a trouvé beaucoup d'encre chez certains théoriciens et philosophes œuvrant principalement en Amérique du Nord. Des chercheurs tels que Judith Butler, John DeGraxis, Patricia Mann, Rita Kosky, Susan Hackman et Shirley Newman ont avancé de nouvelles conceptions de l'engagement en se servant des termes comme agentivité, c'est la traduction française du terme anglais agency, ou puissance d'agir, et en explorant ses dimensions sociales, éthiques, politiques et discursives, dans le but de proposer une conception d'agentivité apte à rendre compte de la possibilité d'agir dans la société occidentale actuelle, où le sujet semble plutôt pris dans un état de suggestion, emprisonné par les discours et les institutions qui le déterminent et qui l'entourent, ces théoriciens se sont penchés sur le désir, le pouvoir et les moyens nécessaires pour faire advenir des changements sociaux. La conscience des injustices du patriarcat, encore très présente, même aujourd'hui, doit mener aux actions. D'où la définition suivante du concept d'agentivité que suggère Patricia Mann, et je traduis de l'anglais. Le terme agentivité fait référence aux actions jugées signifiantes effectuées par un individu ou par un groupe à l'intérieur d'un cadre social ou institutionnel particulier. Ainsi conçu, l'agentivité entraîne une interaction nécessaire entre le sujet féminin et la société, dans la mesure où ces actions sont susceptibles de provoquer des mutations sociales sur le plan des normes, des contraintes ou des limites. Un élément important de ce débat récent sur l'agentivité est la relation entre subjectivité et agentivité, un rapport qui est évident dans la définition qu'offre Shirley Newman du dernier terme. D'après elle, l'agentivité serait, et je la cite toujours en traduction, la capacité d'agir de façon autonome, d'influer sur la construction de sa propre subjectivité et sur sa place et sa représentation dans l'ordre social. L'agentivité est donc reliée à la subjectivité tout en étant distincte, ce qui se manifeste également dans la façon dont Helga Draxin décrit l'agentivité, à savoir comme le modus operandi du sujet. Effectivement, comme vous y pensez, on peut être sujet d'énonciation sans pour autant accéder au statut d'agent, sans que son discours effectue des changements sociaux ou politiques. Tel est le cas, par exemple, d'un sujet d'énonciation qui ne fait que réitérer des clichés, des stéréotypes, afin de les perpétuer, de les propager davantage sans ajouter une dimension critique, sans les questionner. Il s'avère donc que le langage occupe une place capitale dans le fonctionnement de l'agentivité, vu son rôle déterminant dans la transmission de l'idéologie et dans la construction de toute subjectivité. Rita Felski, théoricienne américaine, souligne ce rapport soutenu entre langage et subjectivité au sein de toute théorie de l'agentivité, prétendant que cette relation est nécessaire à une théorie, je la cite, qui cherche à établir des liens entre des textes littéraires et une politique émancipatrice, en forgeant un lien entre la dimension sémantique du texte et des agents sociaux potentiels. Si la définition du terme « agentivité » de Shirley Newman, que je viens de citer, met en avant la capacité d'agir de façon autonome, on peut néanmoins se demander dans quelle mesure le sujet possède cette liberté et cette autonomie requise pour agir. C'est déjà la question que soulève Simone de Beauvoir en 1949 dans le deuxième sexe, où, d'après la perspective de la morale existentialiste qu'elle adopte, elle distingue entre l'immanence de la femme, prise dans un état d'objet passif, et la transcendance de l'homme, associée aux actions et aux projets. Dans la conclusion du deuxième tome du deuxième sexe, de Beauvoir affirme qu'aujourd'hui, la femme ne cherche plus à entraîner l'homme dans les régions de l'immanence, mais à émerger dans la lumière de la transcendance, sans pour autant expliquer exactement comment ce passage de l'immanence, de la prison, comme on l'appelle, à la tendance s'effectue pour celle qui est l'autre de l'homme. Et c'est justement sur ce point crucial concernant les actions soi-disant autonomes que les théories de Judith Butler sont pertinentes. D'après la philosophe américaine, le sujet est toujours et déjà pris dans un immense filet de discours préalables qui le fait paradoxalement exister. De plus, aucun individu ne devient sujet sans d'abord être assujetti. Je cite le psychedelic power. Sans être un effet de cette même sujétion qui le crée, en fait. Lors d'un renversement saisissant, le pouvoir qui influe sur le sujet, le rendant sujet à son contexte social et politique, s'avère précisément le pouvoir dont il se sert pour agir. Et ça rejoint un peu ce que Nicole Caligaris a dit hier soir sur engagement et manque de pouvoir. Butler formule la question ainsi. Je la cite, comment cela se fait-il alors que le pouvoir duquel le sujet dépend afin d'exister et que le sujet est forcé de répéter se retourne contre lui-même lors de cette réitération? Comment penser la résistance en termes de réitération? Si le sujet est effectivement toujours assujetti, il n'en reste pas moins, selon Butler, qui peut répéter le même discours pour le contrer, pour le resituer dans un contexte différent, ouvert à de nouvelles significations. Cette réitération discursive est au centre de la conception butlérienne de la gentilité, puisque d'après elle, la mise en question des normes et des droits du genre sexuel s'effectue précisément dans le contexte performatif de la répétition. Je l'affirme, toute signification résulte de la nécessité de répéter. La gentilité est donc située dans la variation de cette. Ainsi existe la possibilité d'une nouvelle signification provoquée par une répétition performative, par une variation du discours antérieur qui le place dans un nouveau contexte, qui le détourne. Il s'agit de la répétition d'une subordination, et cette répétition sert un autre but, dont l'avenir est partiellement ouvert. Enfin, il importe de souligner que la conception luthérienne de la gentilité en tant que la variation d'une répétition des parties intégrantes de sa réflexion sur le genre sexuel, que les sujets genrés sont alors aptes à performer les discours sociaux et les normes sexuelles afin de les perturber ou les resignifier. Il n'en demeure pas moins que cette conception de la gentilité s'avère à l'œuvre dans bon nombre de textes littéraires contemporains, où il est justement question d'agir sur certaines formes d'assujettissement qui pèsent lourd sur le sujet féminin. On peut donc se poser la question, qu'en est-il de l'analyse de la gentilité dans le texte littéraire? Étant donné que plusieurs théories de la gentilité proviennent de la philosophie, de la sociologie, de la théorie politique, on peut se demander comment examiner la manifestation et le déploiement de ce concept au sein de l'œuvre littéraire. En effet, les théoriciens que j'ai cités si haut ne fournissent aucune méthode pour appliquer cette théorie au texte littéraire. À n'importe quel autre type de texte. Cela dit, il est important de souligner que le texte littéraire, dans toute sa complexité, est un site par excellence d'agentivité au féminin, rempli de potentialités de toutes sortes, comme le constate Sherry Simon. Je le cite, il n'est pas étonnant que le texte littéraire, lieu privilégié de contestation des formes et des totalités, se montre fasciné par ces transformations, celles de l'identité et des grandiosités font la crise de la culture. En face, la problématisation y contribue à créer de nouvelles figures de l'espace culturel. Donc, si tout texte littéraire peut provoquer de tels changements, je suis peut-être très optimiste, il n'est pas étonnant que certains récits biographiques de l'extrême contemporain des femmes, en particulier ceux portant sur un trauma personnel, que ce soit la violence familiale, l'inceste, le viol, la maladie, l'avortement, le deuil, constituent des lieux importants d'agentivité sculpturale. Ces représentations littéraires donnent l'occasion aux auteurs de contester les normes, notamment celles relatives aux genres sexuels qui régissent leur vie. Dans les textes, les écrivaines comme Annie Ernaux, Chloé Delorme et Camille Laurence, l'inscription de l'agentivité va bien au-delà de la seule représentation des actions des personnages. Ce serait une possibilité d'examiner la représentation de l'agentivité. En suivant les propos de Butler concernant la variation et la répétition qui sont pour elle au cœur de l'agentivité, j'avancerai que le discours employé pour représenter le passé de dans certains textes récents de femmes, il est lui-même susceptible de constituer une forme de gentilité, critiquant les contraintes et les mentalités antérieures et actuelles, et agissant sur les attitudes du lectorat et sur les normes sociales. En effet, certaines stratégies discursives d'ordre itératif, et je pense à l'intertextualité, la métatextualité, la citation, le cliché et le stéréotype, permettent une répétition critique dans le contexte de l'ouvrage en question. La fonction de ces procédés textuels dépasse le seul but de faire revivre le passé, leur emploi crée également une source d'agentivité discursive. Je vais me pencher aujourd'hui sur une seule forme de cette répétition discursive avec variation, l'intertextualité, en me servant de trois exemples spécifiques, dans des textes autobiographiques récents de quelques écrivains différents, afin de montrer comment elles réussissent à effectuer le renversement textuel décisif dont parle Butler pour produire des textes véritablement engagés. Donc, mon premier exemple de l'emploi d'un hypertexte visant à un but critique et en mettant en œuvre la gentilité du sujet narrant est tiré de l'événement d'un hiernon, ce récit douloureux que vous connaissez probablement tous, que son corps avortement, survenu dans les années 60 lorsque l'avortement était formellement interdit. On le sait, depuis la publication de son premier texte, Les hommes morbides, en 1974, Hermon n'arrête d'explorer le sujet féminin dans toutes ses facettes, en le plaçant dans sa réalité sociale, familiale et passionnelle. Dans l'événement, cette représentation de la subjectivité féminine est clairement en évidence toute la série de difficultés que rencontre la narratrice lors de sa quête ardue et clandestine d'un avortement, et puis celle subie par la suite, comme l'hémorragie dont elle a failli mourir, et le traitement humiliant à l'hôpital. Si Hermon recourt à de multiples citations dans son récit émouvant, c'est peut-être le renvoi intertextuel à un extrait de l'édition de 1948 du Nouveau Larousse universel qui exemplifie le mieux la portée critique de la répétition intertextuelle dans les romans. Je cite cet extrait. Sont punis de prison et d'amende, 1. L'auteur de manœuvre abortive quelconque, 2. Les médecins, sages-femmes, pharmaciens et coupables d'avoir indiqué ou favorisé ces manœuvres, 3. La femme qui s'est avortée elle-même ou qui y a consenti, 4. La provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle. L'interdiction de séjour peut en outre être prononcée contre les coupables, sans compter, pour ceux de la deuxième catégorie, la privation définitive ou temporaire d'exercer leur profession. Dans ce passage, Hermon fait sienne la voix de la loi patriarcale, celle qui déterminera tous ses faits et gestes dans ce récit, celle qui obligera la jeune protagoniste à se lancer désespérément dans cette quête furtive et difficile de l'avortement désiré, digne de punitions qui sont aujourd'hui presque impensables dans la société occidentale. Au lieu de simplement résumer cette loi dans ses propres mots, au lieu d'en faire une paraphrase, la narratrice donne libre cours à la voix de la loi en la citant intégralement. Mise en relief par l'emploi de l'italique, cette greffe textuelle sert non seulement à éclaircir le dilemme personnel dernièrement, ici on peut juxtaposer le sort de l'individu et celui de la collectivité des femmes, toutes contraintes par cette même loi, mais aussi à nous rappeler de façon claire cette interdiction antérieure qui pesait sur le libre choix des femmes concernant leur propre corps. Rappel redoutable de ce crime, mais aussi des gains maintenant tenus pour acquis et des possibles dangers si jamais une pareille loi était réadoptée aujourd'hui, comme certains le souhaitent encore, je pense à certains membres du gouvernement. Comme l'affirme en point de compagnon, la citation fonctionne en tant que sollicitation, provoquant un arrêt dans le texte. Son rôle est d'abord fatigue en établissant une communication avec le lectorat. Cette capacité que possède la citation déguichée comme un clin d'œil dans ce contexte permet à Hermon de répéter la loi dans toute sa puissance, tout en la dénonçant de façon catégorique. Deuxième exemple. Une dénonciation analogue se manifeste dans Philippe de Camille Laurence, un court récit poignant où il s'agit de faire le deuil de son fils, décédé à peine 2 heures après sa naissance, à cause d'une série d'erreurs médicales commises par un obstétricien incompétent, un certain docteur Vignette. Le texte de Laurence témoigne non seulement d'un désir de vivre sa souffrance, mais aussi de celui d'accuser le médecin de ses torts. D'où le recours à de nombreux intertextes du sermon d'appui. Il est surtout question d'ouvrages scientifiques et de rapports médicaux. La narratrice cite par exemple des extraits du rapport d'expertise du professeur Papiernik, expert auprès de la Cour de cassation, du droit médical, du rapport d'autopsie, du parthogramme et de son propre carnet de santé. De plus, elle recourt à des citations tirées de l'Encyclopédia Universalis, le guide papiernique de la grossesse, le dictionnaire Le Robert et aussi le livre d'un autre médecin, Dr. Chénier, qui a publié un livre qui s'intitule « Que sa naissance soit une fête ». Ce qui n'était pas le cas, évidemment. Comme je l'ai montré ailleurs, ces citations sont habilement intercalées dans le texte, ponctuant sa propre narration d'un rythme régulier, de sorte qu'elles se répondent dans un dialogue polyphonique. Suite à un extrait cité de son parthogramme qui précise que le nouveau-né souffrait d'une dystocie des épaules et qu'il était en état de mort apparente, Laurent cite un long passage de l'article intitulé Dystocie au pluriel de l'Encyclopédia Universalis, où les dangers de la dystocie ainsi que le rôle du médecin au cas où ce problème grave surgit sont clairement énumérés. Je cite, responsable des dangers courus par la mère et l'enfant au cours de la parturition, les dystocies sont les difficultés survenues lors de la descente du fœtus dans la cavité pelvienne au moment de la naissance. Le rôle du médecin est de prévoir, d'éviter ou de traiter les dystocies. Au cours de toutes les dystocies, si l'expulsion tarde au prix d'une souffrance réelle et possible du fœtus, il faut utiliser des dispositifs d'extraction, notamment le forceps. En s'appropriant la voix de l'expert de l'Encyclopédia Universalis, la narratrice répète ses faits médicaux, mais en les situant dans son propre contexte personnel. Cette greffe intertextuelle lui donne l'occasion d'agir lors de cette situation hautement triste et frustrante. C'est un deuil par accusation, implicite d'abord, ayant comme but de blâmer le coupable et ainsi, d'après elle, de réparer le tort. Cette stratégie de se servir d'un intertexte afin d'accuser le médecin responsable de l'erreur provoquant le décès du bébé devient encore plus évident dans l'extrait qui suit cette citation que je viens de lire. Au lieu de revenir tout de suite à son propre récit, Laurence place une citation du rapport d'expertise du professeur Papiernik directement en dessous de celle de l'article sur la dystocie. Cet extrait fonctionne comme réponse au précédent, rendant l'accusation de l'incompétence très explicite. Je cite, je ne sais pas pourquoi le docteur Vignette n'a pas utilisé le forceps, dont l'usage aurait pu et dû raccourcir la période d'expulsion et la bradycardie de 15 minutes qu'il a accompagnée. Ce n'est pas Laurence qui parle, c'est le médecin. Ici, Laurence fait sienne la voix du professeur Papiernik en répétant ses paroles pour que le référent du jeu énonciateur se dédouble, renvoyant à la fois au professeur renommé et à la narratrice renommée. Car c'est évidemment Laurence elle-même, appuyée par le savoir médical de l'expert, qui pose cette question épineuse. Par la suite, elle reprend son propre rôle de narratrice, mais ce retour à son propre récit témoigne d'une répétition lexicale qui fait écho au début de la citation du professeur Papiernik. Là où ce dernier déclare, je ne sais pas pourquoi le docteur Vignette n'a pas utilisé le forceps, Laurence enchaîne, je me demande pourquoi moi, on ne me le donne pas. On remarque dans son discours la répétition du pronom « je », celle de l'adverbe interrogatif « pourquoi » et celle de la négation, mettant l'accent sur les actions non accomplies. Ainsi, Laurence passe du plan général, quoi faire dans le cas de on dissocie, au plan particulier, à sa propre situation individuelle et personnelle. Grâce à toute cette mosaïque de citations intertextuelles qui résonnent et qui se répondent telle une chambre sonore, Laurence effectue le passage du statut de victime d'une triste injustice et d'une perte douloureuse à celui d'agent, donnant voix à son deuil et à sa colère. Citer la parole des experts ici, c'est ajouter du poids à ses propres arguments, c'est agir pour énoncer son deuil et aussi ses protestations. Dernier et troisième exemple. Donc, mon dernier exemple est d'un interprète employé des fins d'agentivité pour transformer le sujet écrivant en agent, provient de l'autofiction dans la maison sous terre de Chloé Delorme. Celles et ceux qui connaissent l'œuvre de Delorme le savent déjà. Toute son écriture tourne autour du trauma ravageur qu'elle a subi à l'âge de 10 ans, quand on l'apprend dans le cri de sa vieille. C'était le 30 juin 1983 quand le père de la jeune Chloé tire sur sa mère, la tue, vise sa fille, mais finit par enfoncer le canon du fusil dans sa propre gorge et se suicide. Ensuite, sous le choc, de l'homme devient aphasique pendant 9 mois et habite chez ses grands-parents et puis chez son oncle et sa tante. Ce trauma devient alors le moteur même de son équipe. Et son agentivité consiste en l'emploi de sa plume pour surmonter les effets dévastateurs du trauma et pour se reconstruire, ce qu'elle tente de faire en se métamorphosant en un personnage de fiction. Phrase répétée en entreprise pour affirmer cette nouvelle identité. Comme la narratrice dans ma maison sous terre le déclare, je me suis faite du mot « personnage de fiction » pour pouvoir échapper à votre. Je m'appelle Chloé Delorme, je suis un personnage d'affliction et quiconque m'approchera sera de regarder. Très axé sur l'intertextualité, l'écriture de Delorme est parsemée d'extraits empruntés de sources diverses, textes littéraires, chansons, contes et citations abondent dans son œuvre. Comme le signale Valérie du Saillant Fernandez avec raison, Delorme emploie la technique du si cher à René Groves, pour faire le collage et le montage de différents textes à l'intérieur du sien, exprimant ainsi la fragmentation de soi occasionnée par le trauma d'enfance. Étant donné que Dussain Fernandez a déjà bien analysé le travail intertextuel dans le prix du Sablier, montrant bien comment Delorme incorpore des extraits de Bérénice et Athalie afin de s'ériger en ironie tragique digne de Racine, je vais me consacrer à l'usage d'un intertexte particulier dans ma maison sous terre qui résume bien le dynamisme de Chloé Delorme. Je note d'abord en passant que sa passion pour la pratique intertextuelle s'inscrit même dans son pseudonyme qui est doublement intertextuel. Comme prénom, l'auteur adopte celui du personnage Chloé de l'écume des jours de Paul Sion, s'appropriant ainsi les connotations de souffrance, de maladie, de fragilité qui se rattachent déjà à cette anthropomie grâce au texte de Bion. N'oublions pas que la belle Chloé de l'écume des jours souffre d'un nénuphar qui pousse dans son poumon et qu'elle finit par en mourir. Le travail intertextuel sur le plan onomastique se voit également dans le nom de famille inventé de l'homme, que l'auteur emprunte à Artaud, plus précisément au titre « L'arbre et l'ombre ». Il s'agit d'une traduction, une transposition du sixième chapitre de la traversée du miroir de Lewis Carroll, qu'Artaud publie en 1947, la même année que l'apparition du roman de Boris Vian. Donc le nom de l'ombre nous renvoie à l'univers mystérieux, fantastique et poétique du texte de Lewis Carroll, traduit et adapté par Artaud, mettant en relief de multiples jeux sur le signifiant qui caractérise l'agriculture de ces deux écrivains, aussi bien que celle de Delorme. Ainsi, le travail onomastique, effectué par l'usage d'interprètes significatifs, fait-il partie de la création et de l'affirmation chez de l'homme de sa nouvelle identité qui mettrait à mort celle reliée au trauma de l'homicide, suicide de l'enfance. Dans ma maison sur terre, c'est une autre fiction faite de 38 fragments, autant de courts récits, de pages tirées des carnets de l'auteur et d'une lettre à Madame Lamour, qui ont tous trait à la fréquentation de la narratrice d'un cimetière, où elle rencontre un personnage qui s'appelle Théophile, qui agit comme son interlocuteur. Le roman comprend aussi beaucoup de références musicales, telles celles à la chanson Scandale dans la famille, interprétée par Sacha Distel et par Dalida en 1965, et qui exprime un des enjeux clés du roman, à savoir la révélation que le père meurtrier de Delon n'était pas en fait son père biologique, ses faits enfin révélés par la grand-mère à qui la narratrice en veut énormément. L'intertexte dont j'aimerais discuter consiste en deux parties. La répétition et la variation du titre d'un roman de Jean-Jacques Jules, conjoint d'ailleurs de la chanteuse Nouvelle Carmen, et une citation d'un de ses textes. Le titre du roman de Jules, Rose poussière, est celui du roman qu'il a publié chez Gallimard en 1972, où il s'agit de l'histoire d'un homme à multiples identités, la norme interchangeable, si vous voulez, sans identité fixe, dont l'identité composée de morceaux hétéroclites, des bouts de chansons, des accessoires, des références à toute une gamme de personnages célèbres comme Marlon Brando, Mao, Stan Laurel, beaucoup de Laurel Brando, Marlene Dietrich, Les Rolling Stones, donc tout un collage. En se servant des collages évoquant le pop art, Jules réussit à capter l'atmosphère des années 60 et 70 dans cet ouvrage relevant de la musique fiction. Le terme, c'est celui de Ludovic Bichler, un article publié dans le numéro qui a dirigé le nom dans le plan de fiction. Dedans, on reprend le titre Rose poussière à deux reprises et repère une variante sur le syntagme en mettant le substantif rose au pluriel. C'est pour singulier dans le titre de roman de Jules. Lors de la première occurrence de l'expression titre, le syntagme fait partie d'un poème qui apparaît soudainement dans le texte lorsque la narratrice et Théophile contemplent la pierre tombale de Mademoiselle Day, dont il ne sait absolument rien. Je cite, « Je suis la fille de réverbère, mes joues sont vernies, grosse poussière. Je ne suis personne, en marbre. » Surgissent alors des connotations d'humour, de transformation du corps en poussière, des fleurs fanées sur les tombes et de l'oubli et d'absence d'identité. La deuxième occurrence du même syntagme le présente comme le titre d'une des 38 séquences du roman. Ici encore, la variation de l'homme est la même, le substantif rose reste au pluriel, mais cette fois-ci est doté d'une majuscule, lui rendant donc son statut de titre, doublement en fait, en tant que titre du roman de Jules et titre de la section du roman de Delon. Cette brève section du roman ne comprend qu'une seule phrase, une citation de Jules dont le nom est clairement indiqué dans le texte de Chloé Delon. Je cite, l'amour saisit le vif, les morts veulent hériter des vivants, de tous sans exception. Selon Jean-Bernard Vray, je le cite, désigne la hantise de saisissement du vif à quoi s'oppose le retour à moi de l'écriture dans ma maison sous terre comme celle déjà du cri du sablier. Et je pense qu'il y a plus en jeu ici dans ces renvois à l'œuvre de Jules. En citant cette phrase de Jules, Delon résume de façon apte son propre dilemme, sa quête acharnée d'échapper à l'amour qui a entaché son existence, de renaître autre par rapport à cette victime du trauma qu'elle fut dans le passé. De plus, la référence à l'œuvre de Jules tisse de multiples liens entre les pratiques sculpturales des deux auteurs. L'emploi, par exemple, de fragments, du chant lexical de la mort, le recours fréquent aux chansons, et en plus, leur questionnement dans la recherche identitaire. ce soit Gérard Genette, Laurent Génie, Tiffaine Saint-Voyant ou d'autres, les théoriciens de l'intertextualité nous ont bien montré que l'intertexte peut remplir de nombreuses fonctions au sein du texte autre qu'il accueille. Il peut avancer la table et dans l'ancienne, approfondir les termes du texte, servir de base d'un jeu de parodie ou de pastiche, créer une atmosphère, débriefer le caractère du personnage ou même appuyer leurs arguments au point de vue. Il s'avère que cette forme de répétition discursive, une fois resituée dans son nouveau contexte, est également susceptible de transformer le sujet de la narration en agent qui critique, qui questionne, qui ébranle le statu quo et les idées reçues, mobilisant une variation du discours d'enfant. C'est exactement cela que Judith Butler a envisagé lorsqu'elle nous incite à employer des outils discursifs à notre disposition, des discours qui nous déterminent, qui nous assujettissent, mais qui sortent pourtant à nous. Dans l'événement, elle y a un mauvais fait à la loi contre laquelle elle s'est révoltée. Tout son récit, en fait, consiste en l'énumération des stratégies utilisées pour la contenir. On constate une autre forme de résistance par la réitération chez Camille Laurence, qui cite certains experts médicaux pour donner voix à son deuil, à sa colère et à sa vengeance. Tout autre est la répétition avec variation dans le roman de Chloé Delorme, où les intertextes ne ciblent pas une loi ou un principe injuste, ou bien un médecin incompétent, mais font partie intégrante de son histoire, de son identité textuelle en devenir, de cette reconstruction post-traumatique de soi. Si, comme Susan Heckman l'affirme, les agents sont des sujets qui créent, qui construisent des combinaisons uniques d'éléments différents, les textes des trois auteurs analysés dans cette communication en sont la preuve. Merci.